Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean. Texte de la liturgie catholique pour le quatrième dimanche de Pâques.
Moi, je suis le pasteur, le bon. Le pasteur, le bon, fait don de sa vie pour les brebis. Le salarié, qui n'est donc pas pasteur, car les brebis ne sont pas les siennes, voit-il venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse, car il est salarié et n'a pas souci des brebis. Moi, je suis le pasteur, le bon, et je connais les miennes, et les miennes me connaissent. De même que le Père me connaît et que je connais le Père. Ma vie, j'en fais le don à mes brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il me faut les conduire et elles entendront ma voix et elles deviendront un seul troupeau, un seul pasteur. Ce pourquoi le Père m'aime, c'est que je fais don de ma vie pour la recevoir à nouveau. Personne ne me l'enlève. Mais moi, j'en fais le don de moi-même. J'ai pouvoir de la donner et j'ai pouvoir de la recevoir à nouveau. C'est la directive que j'ai reçue de mon Père. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bonjour, André.
Bonjour, Georges. Ces paroles de Jésus nous font pressentir la connaissance intime qu'il a de Dieu et le lien unique qu'il a développé avec ses disciples. Qu'est-ce que cela nous dit de Dieu? Et ce lien avec Jésus peut-il encore être le nôtre aujourd'hui?
Eh bien, regardons où se trouve ce texte, cette parabole du pasteur. Elle semble avoir été dite dans le cadre de la fête juive de la dédicace. Cette fête qui commémorait alors la restauration du temple par Judas Maccabée en l'an 164. Judas venait de chasser les Syriens qui occupaient le pays et qui avaient profané le temple en y installant la statue d'un de leurs dieux. Au temps de Jésus, alors que Rome occupe Israël depuis près de 100 ans, cette fête ravivait l'attente d'un nouveau Maccabée qui chasserait les Romains. De plus, les gens étaient écrasés par les impôts prélevés par l'occupant. Et c'est donc en face d'un patriotisme exalté et d'une grande fièvre religieuse que Jésus se situe. Qui peut être le vrai leader du peuple de Dieu pour le conduire à la vraie libération? Jésus, les chefs pharisiens ou ces militants armés que seront les Zélotes? Le chapitre 10 de Jean fait suite à la guérison de l'aveugle né. Jésus se trouve à Jérusalem où il guérit un aveugle de naissance un jour de Shabbat. Il a de plus contesté que la cécité de l'aveugle est un lien immédiat avec son péché. Ce miracle irrite fortement les pharisiens qui s'opposent de plus en plus à Jésus. Ils vont rejeter et excommunier de la synagogue l'aveugle guéri parce qu'il ne veut pas condamner Jésus comme étant un pécheur, un homme possédé de l'esprit du mal. « Nous savons, disent-ils, que cet homme est un pécheur. » Et l'aveugle réplique.
« Dieu n'exauce pas les pécheurs. » Si un homme fait sa volonté, Dieu l'exauce. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire.
La question qui est posée avec acuité est donc celle-là. De qui Jésus tient-il sa mission? De Dieu ou du diable? Et Jésus va répondre par la parabole du bon pasteur.
Moi, je suis le pasteur, le bon.
Jésus se décrit à l'aide d'une image qui est celle de la vie quotidienne. Dans les villages de Palestine, chaque matin, le berger, le pasteur, se rend à l'enclos. Son troupeau et ceux des autres bergers y ont passé la nuit, à l'abri des voleurs et des loups, car l'enclos est gardé par un portier. Pour voler une brebis, les voleurs devront donc escalader sans bruit la clôture. Le matin, chaque pasteur qui se présente à la porte a un timbre de voix qui lui est propre, une façon bien à lui d'appeler ses bêtes. Les brebis qui vont sortir seront celles qui appartiennent au pasteur qui les appelle. Peut-être même le pasteur a-t-il donné un nom à chacune de ses bêtes. Certains pasteurs sont des propriétaires de leurs troupeaux, alors que d'autres travaillent comme salariés. Dans le jour, le rôle du berger, du pasteur, est de conduire le troupeau vers les lieux de pâturage où il pourra se nourrir.
Pourquoi Jésus choisit-il cette image du pasteur?
Eh bien, dans la Bible, le titre de pasteur appartient d'abord à Dieu. Écoutons Isaïe.
Voici le Seigneur Dieu. Tel un pasteur, il fait paître son troupeau. De son bras, il rassemble les agneaux. Il les porte sur son sein. Il conduit doucement les brebis mères.
Ceux qui, au nom de Dieu, transmettent l'enseignement divin au peuple, reçoivent aussi le titre de pasteur. Ce sont les juges, les prêtres ou les prophètes, mais surtout le roi Messie.
Dieu choisit David, son serviteur, le prenant dans une bergerie. Il le fit venir de derrière ses brebis et il en fit le pasteur de son peuple. Pasteur au cœur irréprochable, David les guida d'une main avisée.
Souvent d'ailleurs, les prophètes vont fustiger les rois messies ou les grands prêtres parce que justement, ils sont de mauvais pasteurs.
Malheur aux pasteurs qui se paissent eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les pasteurs doivent paître? Vous n'avez pas fortifié les bêtes chétives, vous n'avez pas guéri la malade, vous n'avez pas ramené celle qui s'écartait, vous n'avez pas cherché celle qui était perdue. Mais vous avez exercé votre autorité par la violence et l'oppression.
On songe aux pharisiens et à l'aveugle, car ceux-ci n'ont rien fait pour sa guérison. Ils l'ont même chassé de la synagogue. Alors que Jésus, au contraire, a guéri celui qui est malade et comme un bon pasteur, il l'a ramené dans la communauté. Il ramenait celui que la maladie rendait impur et éloignait de la synagogue. Selon la vision de Jésus, les pharisiens comme les scribes, qui sont les spécialistes de la Torah, empêchent les gens de s'épanouir dans une vraie vie spirituelle. Pour eux, l'absolu est d'être fidèle aux préceptes, car il faut être correct devant Dieu. Malheureusement, cette fidélité en vient souvent à cacher le lien d'amour avec Dieu. Au contraire, Jésus est celui qui fait vivre d'une vie aimante avec le Père. Il veut guider les siens vers un Dieu qui les aime et qui attend leur amour. Il voit les foules comme des brebis sans pasteur et c'est par compassion, avec miséricorde, qu'il soigne, qu'il guérit, qu'il enseigne. Jésus est donc le bon pasteur selon le cœur de Dieu.
Le bon pasteur fait don de sa vie à ses brebis.
La bonté du pasteur n'est pas une douceur mièvre comme pouvaient le suggérer autrefois certaines images du Sacré-Cœur. Cette bonté va au contraire le conduire à risquer sa vie pour sauver la vie des siens. Jésus fait don de sa vie pour ses brebis. Jésus qui avait aimé les siens les aime jusqu'à l'extrême, dira Jean au début de la Passion. Et dans les entretiens de Jésus au cours du dernier repas, il va répéter « Personne n'a d'amour plus grand que celui qui donne sa vie pour ses amis ».
Comment cela va-t-il se réaliser pour Jésus?
Le message d'un Dieu qui aime et qui pardonne va provoquer le rejet de Jésus par l'élite religieuse et notamment par les scribes. L'image d'un Dieu qui n'est qu'amour, qui n'est que pardon, va en effet à l'encontre de leur conception de la puissance de Dieu. Le Dieu tout-puissant, selon eux, se doit de venger son honneur et sa gloire en punissant les malfaisants. Et il doit manifester sa sainteté à ses fidèles en les sauvant des épreuves. Mais Jésus enseigne que Dieu manifeste son amour aussi bien aux justes qu'aux injustes.
Mais aimez vos ennemis et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants.
Dieu accorde même une priorité d'attention à ceux qui sont malfaisants parce qu'il veut justement les sauver par son pardon d'amour. Devant la haine dont il va faire l'objet de plus en plus, Jésus ne fuira pas. Oh, peut-être en a-t-il eu la tentation lorsqu'il s'est réfugié au-delà du Jourdain.
Une fois de plus, il cherche à l'arrêter, mais il échappe à leurs mains. Il s'en retourne au-delà du Jourdain et y demeure.
C'est là qu'il apprend la mort de son ami Lazare et qu'il se décide alors à monter à Jérusalem en dépit de la menace qu'il sait peser sur lui.
Thomas dit alors, « Allons, nous aussi, et nous mourrons avec lui. »
Jésus va affronter la mort, une mort qui est la conséquence de son message. Comme le dit bien Christian Ducoq, Jésus, par son attitude et sa prédication, a pris des positions qui l'ont conduit à un conflit dans lequel il a été perdant. Il n'a pas, devant le danger, renié les décisions qui l'ont amené à cette opposition. Ainsi, la mort de Jésus est la conséquence de sa vie. Jésus demeure fidèle à son option, il ne renie rien de ce qu'il a dit et fait en public. Il meurt innocent devant le pouvoir politique et calomnié par le pouvoir religieux. L'image de Dieu que ce pouvoir religieux véhicule et son désir de puissance ne peuvent s'accorder à la liberté responsable qu'exige Jésus dans la relation à Dieu. Ce pouvoir oppose son Dieu à Jésus. Pour ce pouvoir, Jésus est un blasphémateur. Alors Jésus va offrir sa vie comme un ultime geste d'amour et de pardon. Pardon pour Pierre qui va le renier et à qui il lave les pieds en signe d'affection. Pardon pour Judas qui va le trahir et avec qui il partage son pain, signe d'amitié. Pardon pour ceux qui le mettront à mort. Père, pardonne-leur, dit-il sur la croix. En pardonnant, Jésus refuse d'entrer dans la logique de ses adversaires. Il ne peut que livrer sa vie à ceux qui veulent lui faire violence. « Voici ma vie livrée, voici mon sang versé », dira-t-il lors du dernier repas. Cette mort est une décision personnelle et libre de Jésus. Elle est donnée comme un geste d'amour. Parce que dans cette mort et par elle, Jésus aime parfaitement, son cœur pourra être maintenant vraiment une source d'amour pour ceux qui l'accueilleront comme leur compagnon de vie. La mort de Jésus est un don de sa vie, don qui fait vivre ceux qui le reçoivent. La vraie libération qu'il apporte, comme Messie, est celle de libérer de l'égoïsme pour enfanter à l'amour en vivant d'une vie divine immortelle.
Ce pourquoi le Père m'aime, c'est que je fais don de ma vie pour la recevoir à nouveau.
Citons Varillon, François Varillon, dans « Joie de croire, joie de vivre ». En Jésus seul, l'amour a été plus fort que la vie. Sa mort est la mort d'un homme absolument libre, absolument détaché de soi et de tout, totalement aimant. Comment Dieu ne l'accueillerait-il pas en lui alors qu'il vit, afin qu'il vive éternellement en lui? Le Christ n'a vécu que par le Père et pour le Père, donc en un autre plus que soi. C'est cela l'amour, vivre en un autre. Mais vivre en un autre, c'est bien mourir à soi. Dire que Jésus est ressuscité ou que le Père a ressuscité Jésus, c'est donc dire que pour cet homme pleinement homme en qui l'amour a été plus fort que la vie, l'amour est pour toujours plus fort que la mort. Parce qu'il sera vivant pour toujours, Jésus sera à jamais le bon pasteur, le donneur d'une vie d'amour qui conduit à l'immortalité.
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, de même que le Père me connaît, que je connais mon Père.
Dans la Bible, connaître traduit la relation que l'on a avec celui qui est connu. Il ne s'agit pas d'abord d'un savoir sur l'identité extérieure qui fait quoi, mais d'une connaissance intime de quelqu'un par l'amour. Connaissance qui est un partage des désirs les plus profonds, une communion à ses desseins les plus secrets. Le psaume 138 exprime la connaissance intime que Dieu a de celui qu'il aime.
« Seigneur, tu m'as scruté, tu me connais, tu connais mon lever et mon coucher. Tous mes chemins te sont familiers. C'est toi qui as créé mes reins. Tu m'abritais dans le sein maternel. Dieu, scrute-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes soucis. Conduis-moi sur le chemin d'éternité. »
Le Dieu de la Bible n'est pas, en effet, d'abord le Dieu créateur. Il n'est pas le Tout-Puissant qui se tiendrait loin de ses créatures. Pour Dieu, chaque être humain n'est pas un individu parmi des milliers de milliards. Au contraire, chacun est unique, aimé d'un amour personnel.
La femme oublie-t-elle son nourrisson? Oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair? Même si celle-là oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Un bref instant, je t'avais abandonné, mais sans relâche, avec tendresse, je vais te rassembler. Dans un débordement d'irritation, j'avais caché mon visage, un instant loin de toi, mais avec une amitié sans fin, je te manifeste ma tendresse. Ne crains pas, je t'ai racheté, par ton nom je t'ai appelé, tu es à moi. Car tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime.
Cet amour qui vient de Dieu a été reçu à la perfection par Jésus de Nazareth. Et Jésus n'a cessé de dire l'intimité qui existe entre Dieu et lui, Dieu qu'il nomme Abba, Papa.
Le Père aime le Fils, il a tout remis en sa main. Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Car ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement. C'est que nul n'a vu le Père, si ce n'est celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Moi et le Père, nous sommes un.
Ce que Jésus vit avec le Père est le modèle de sa manière d'être avec ses disciples. Ils ne sont pas pour lui uniquement des disciples venus entendre son enseignement. Il a lié avec eux des liens d'amitié qui rendent chacun unique à ses yeux.
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour.
L'entretien de Jésus avec ses disciples au dernier repas marque bien à quel degré d'amour le Maître s'est lié à ses disciples.
Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai écouté de mon Père, je vous l'ai fait connaître.
Le disciple, celui qui écoute et reçoit l'enseignement de son Maître, était habituellement appelé serviteur. Mais au soir de sa vie, Jésus ne va plus considérer les 12 comme des disciples serviteurs, ils seront devenus ses amis, ses frères, car ils communieront dans une même connaissance du Père.
Qui me voit, voit le Père. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous.
L'amour gratuit que Dieu lui porte, l'intimité qu'il vit avec le Père, eh bien, voilà le modèle de l'amour que Jésus porte à chacun de ses disciples. Et c'est aussi l'amour qu'il portera à Nicodème, à la Samaritaine, à Zachée, à Lazare, Marthe et Marie, ses amis de Béthanie. Et c'est aussi l'amour qu'il a pour chacun de nous aujourd'hui. Écoutons Maurice Zendel.
Nous ne sommes pas seuls, nous sommes habités. Nous avons un ami qui nous accompagne sur tous les chemins de la vie. Nous sommes escortés par lui intérieurement, comme les disciples d'Emmaüs. Il est là, à notre insu. Il est là, qui nous attend avec tout son amour. Et c'est pourquoi nos problèmes ne sont pas nos problèmes seulement. Tous nos problèmes sont les problèmes de Dieu.
Pour que cela soit, encore nous faut-il rencontrer Jésus dans une vraie intimité à travers une lecture priante de l'Évangile. On sait que le mot « pasteur » a la même racine que le mot « repas », c'est-à-dire « paître, manger ». La fonction même d'un pasteur est de nourrir la vie de ses brebis. Je suis venu pour que les gens aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Cette vie abondante est la vie spirituelle vécue dans l'amour, la vie même de Dieu. Et cette vie de Dieu vit en nous, dans la mesure où nous sommes nourris de sa parole, où nous vivons comme lui, selon son enseignement, selon son esprit. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Chaque disciple doit pouvoir reprendre le mot de gratitude de Paul.
Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il me faut les conduire et elles entendront ma voix. et elles deviendront un seul troupeau, un seul pasteur.
Nous pouvons sans doute comprendre cette phrase de Jésus en pensant qu'il offre son évangile non seulement aux Juifs, mais aussi aux gens des autres peuples. Lorsqu'il quitte la vie terrestre, ses derniers messages nous disent cela très clairement.
Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Le Christ souffrira et ressuscitera des morts le troisième jour. On prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.
Le règne de Dieu, dont Israël était comme un prototype, va aussi se concrétiser maintenant dans une communauté faite de gens de tous les peuples. Le grand prêtre juif Caïphe prophétisait lorsqu'il disait « Il faut que Jésus meure pour la nation et non seulement pour elle, mais pour réunir dans l'unité les enfants de Dieu qui sont dispersés. » Paul, l'apôtre, travaillera très fort à réaliser cette unité universelle voulue par Jésus en adressant le message de l'Évangile aux païens.
« Christ est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. » Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix. Il est réconcilié avec Dieu, tous les deux en un seul corps, au moyen de la croix. Là, il a tué la haine. Et c'est grâce à lui que les uns les autres, nous avons l'accès auprès du Père. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des immigrés. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la famille de Dieu. Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et Jésus Messie lui-même comme pierre maîtresse.
C'est au tour de la personne de Jésus que doit se réaliser l'unité de tous ses disciples. Oh, malheureusement, il y a aujourd'hui encore bien des divisions entre les chrétiens. Oui, oh, qu'adviendrait-il si protestants, orthodoxes, catholiques avaient la volonté de partager surtout leur amour de Jésus, ce qui lie chacun d'eux personnellement au Maître, plutôt que de se quereller sur des points de doctrine ou des différences de culte. C'est lui, Jésus, et lui seul, qui est le vrai pasteur qui va réunir le troupeau. C'est autour de lui et en lui que peut se faire cette réunification. C'est pour le monde entier que Dieu a donné son Fils.
Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Oui, le règne de Dieu ne se limitera pas davantage aux frontières de l'Église de Jésus. Celle-ci se doit certes d'être universelle, composée des disciples de tous les peuples, mais elle se doit surtout d'être continuellement le signe de l'amour universel de Dieu. Et c'est dans la mesure de leur fidélité à l'amour sans frontières pour le prochain que les disciples de Jésus feront advenir l'unité de l'humanité.
Il est possédé, il déraisonne.
Eh bien, voilà la conclusion que certains juifs donnent aux paroles de Jésus lorsqu'il se présente comme le vrai pasteur selon le cœur de Dieu. C'est que la vision de Dieu que prêche Jésus ne peut pas être comprise de tous ceux qui ne voient Dieu que comme le Tout-Puissant qui doit châtier les méchants et récompenser les bons. Une telle vision ne peut concevoir que le pasteur livre sa vie pour pardonner au lieu de manifester la sainteté de Dieu en punissant les malfaisants. Un tel don de sa vie leur apparaît comme une vision blasphématoire de Dieu, celle d'un Dieu qui serait faible, désarmé, exposant sa vie plutôt que s'imposant. Là où Matthieu parle d'un Dieu parfait, Luc nous dit très justement que sa sainteté est miséricorde. Montrez-vous miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et Jésus dira qu'il ne peut donner d'autre signe divin de sa mission que celui de Jonas, le signe de Jonas qui est justement celui de la miséricorde de Dieu.
Cette génération est une génération mauvaise, elle demande un signe. En fait de signe, il ne lui sera donné d'autre signe que le signe de Jonas.
Jésus ne veut manifester la vérité divine de sa mission de pasteur de Messie que par le signe extrême de la miséricorde, le bon pasteur fait don de sa vie. Dans ce signe, Jésus donne une image de la grandeur qui ne peut malheureusement être comprise, de ceux pour qui la grandeur est de dominer, même s'ils le font avec de bonnes intentions. Aussi ne pourront-ils que le voir possédé du démon, inspiré par l'adversaire de Dieu. Pour terminer, un tout petit mot des pasteurs, des responsables des communautés chrétiennes. Paul et Pierre décrivent dans les Actes des Apôtres les qualités qu'il faut exiger de ces pasteurs.
Prenez soin de tout le troupeau dont Dieu vous a établi les gardiens. Paissez l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais bien qu'après mon départ s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau. De vos rangs surgiront des hommes aux paroles perverses qui entraîneront les disciples à leur suite. Paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié selon Dieu, non par contrainte, mais de bon gré, non par cupidité, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui vous sont échus en partage, mais devenez les modèles du troupeau.
Oh oui, les responsables de communauté ne seront jamais des gourous trop imbus de leur autorité, et pouvant même malheureusement se révéler comme des loups féroces. En l'an 2000, en Ouganda, le massacre de plus d'une centaine de membres de la secte chrétienne des 10 commandements en est le triste et tragique exemple. Ceux qui sont établis gardiens de la communauté ne devront au contraire donner d'autres signes que celui de la miséricorde. Pour aider un frère ou une sœur qui sont en difficulté, une main sur l'épaule est plus utile qu'un coup de semonce. Les disciples de Jésus n'oublieront jamais qu'ils n'ont qu'un seul vrai pasteur et qu'ils sont tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'en avez qu'un seul, le Père Céleste.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Vous pouvez également vous abonner soit au feuillet, soit à la cassette, soit pour 3 mois, 6 mois ou 1 an.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.